seconde 5 du lycée Amiral Renard.
La cour de Babel, saison 2.
Exotique. Découvrir país. Viaje.
Holiday.
Voyage. Ailleurs.
Étranger.
Bonjour. Salut Lola, ça va?
Oui, ça va.
Salut Axel. Bon bah bienvenue, je vous attendais. Allez, on est parti. Bienvenue à la maison.
Merci.
Alors, nous sommes à la maison de l'interlocuteur. Est-ce que tout d'abord, vous pourrez vous présenter?
Oui, alors moi, c'est Franck Nicolas. J'habite Plougonvelin. Je suis responsable en production de tomates sous serre à Saint-Renan depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais je suis aussi président d'une association, l'association Un Parrain France-Burkina Faso, qu'on dit à but humanitaire, même si je ne la vois pas de cette façon, puisqu'il s'agit de scolarisation d'élèves au Burkina Faso. Voilà. Donc j'ai 45 ans et tout va bien.
Qu'est-ce qui vous a amené à créer l'association ?
Alors j'ai un ami burkinabé qui est à Brest, que je connais depuis longtemps. Et ça faisait longtemps qu'il me disait qu'on aurait l'occasion d'aller au Burkina Faso. Et l'occasion s'est produite en 2010, c'était à l'occasion de son mariage à l'époque. Et l'idée c'était d'y aller en groupe, avec un groupe d'amis, on était 7. Et on a été au Burkina Faso avec Adrien qui nous y a amenés. Il nous a présenté son pays, ses amis, sa famille. Et voilà, donc c'est ça l'occasion à l'origine pour moi de la découverte de ce pays, le Burkina Faso, qui est en Afrique de l'Ouest et qui est un pays francophone. C'est la langue officielle du pays, c'est le français, même si peu d'habitants réellement parlent le français. Parce que justement, ce que j'y ai découvert, c'est que si c'est la langue officielle du pays, c'est le français, pour pouvoir accéder à apprendre le français, il faut aller à l'école. Parce qu'il y a plus d'une trentaine de langues différentes dans ce pays. Et ce qui freine aussi ce pays-là, c'est que déjà au sein du pays, même les gens ne parlent pas la même langue, quoi. Et donc, de fil en aiguille, on a parlé de l'école en particulier. On en reparlera sûrement beaucoup là, dans les minutes qui viennent.
Quel est votre premier souvenir de voyage ?
Alors, on va revenir sur ce voyage-là. C'était 2010. Donc, c'est des pays qui nous intriguent, les pays d'Afrique. Il y a plein de pays d'Afrique, donc le Burkina Faso, on n'imagine pas à quoi s'attendre en fin de compte. Donc la question c'était
le premier souvenir de voyage.
Mon premier souvenir sur ce voyage-là, l'arrivée, je dirais. L'arrivée, le premier souvenir évidemment, c'est les premières images. Quand on sort de l'avion déjà, l'air qu'on respire qui n'est pas le même. Et ensuite l'atmosphère. L'atmosphère quand on est dans les rues, je n'oublierai jamais ça. Voilà, ça c'est plutôt voilà mon premier le ressenti. Et évidemment les premières visions de pauvreté que l'on a, hein, qui nous prennent un petit peu à la gorge, je dirais. Ça reste pas. On en parlera tout à l'heure, je le préciserai. C'est les premières, ça c'est vraiment les premiers souvenirs qui me restent du début du voyage.
Quelle est la première chose que vous faites quand vous posez vos valises ?
Alors, au Burkina Faso, comme ailleurs, la première chose qu'on fait quand on arrive quelque part, on se pose. Et même là-bas, en fait, on va dans ce qu'on appelle un maquis. C'est des petits bars de rue. Et on boit une bière.
Voilà, c'est de la Braquina, par exemple. C'est une bière locale qui est très bonne. Voilà, on se pose. Et surtout quand on arrive dans, je dirais même en Afrique, on arrête de courir dans tous les sens. On pose la valise. Cette image-là, elle est belle. Et on s'imprègne. Voilà, moi c'est ça que j'ai fait, c'est apprendre à s'imprégner des lieux pour capter. Parce qu'on est dans un autre monde, hein, faut dire ce qui est par rapport à ce que nous connaissons. Donc poser ses valises et presque donc être attentif, écouter, observer et comprendre.
Mais est-ce que c'est grand là-bas ou pas?
Alors c'est un pays qui fait un tiers de la France seulement. Donc la population est de 17-18 millions d'habitants. Donc finalement ils sont moins nombreux que nous, parce que nous on est quasiment 70 millions. Un tiers de 70 millions, ça ferait plus que 17 millions, quoi. Donc c'est pas un grand pays, c'est plutôt un petit pays d'Afrique de l'Ouest.
Qu'est-ce qui vous a fait voyager?
Alors on va dire dans ce cas-là, y retourner peut-être, parce que comme on disait tout à l'heure, y aller la première fois, c'était dans le cadre d'un groupe d'amis, mais y retourner, ben, c'était quelque part des ce qui m'a fait voyager et y retourner, c'est un engagement, je pense, puisque j'ai mis sur pied, enfin je me suis engagé, spontanément, la première fois, en 2010 déjà, parmi les amis d'Adrien, il y avait le fondateur d'une école, d'un lycée à Ouagadougou, et je suis curieux de nature, et j'ai posé des questions, je me suis intéressé à savoir pourquoi si peu d'enfants vont à l'école, parce que la réalité c'est ça, c'est que c'est quand même un pays très pauvre, et l'école n'est pas obligatoire au Burkina Faso, parce que l'État n'a pas les moyens d'assurer la scolarité des enfants. Hein, contrairement à chez nous, où l'école est obligatoire, et l'État participe énormément, voire quasiment en totalité, au financement de la scolarisation des enfants. Alors que là-bas, non, et ça m'avait intrigué, donc j'ai souhaité rencontrer... Enfin, je me suis d'abord renseigné du tarif, combien ça coûte d'inscrire un élève à l'école. Et bon, c'était autour de 130 euros dans ce lycée-là pour une année complète, avec les fournitures, la tenue, l'inscription. Il faut savoir que dans ce tarif-là, ça paye tout. Ça paye le salaire des professeurs, ça paye l'énergie pour le ventilo, ça paye les impôts fonciers s'il y en a, les murs en tous les cas, ça c'est sûr. Donc pour ce tarif-là, ça paye tout, puisque l'État ne participe en rien. Et donc je me suis dit, mais 150 euros quand même, tout est relatif, mais chez nous, franchement, c'est abordable, quoi. Je me suis dit, mais moi, ça veut dire que si je mets 150 euros sur la table, là maintenant, je peut permettre à un enfant qui ne va pas à l'école d'y aller. Voilà, c'est parti de là, mon raisonnement. Et dans au fur et à mesure de la discussion avec ce fondateur du lycée, là, ami d'Adrien, je me suis dit spontanément, je peux aider deux, voire trois élèves. Et là, il m'a dit, ben banco, je te présente le proviseur jeudi prochain, et le proviseur, je lui en parle, et il va te présenter trois familles. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé face à trois élèves, et je me suis dit, je leur ai dit, ben, je vais vous permettre d'aller à l'école, je peux le faire. Et voilà, donc j'y suis retourné en 2011. L'année suivante, j'y suis retourné tout seul, en fait, pour ben, prendre des nouvelles. Et surtout, entre-temps, j'avais rencontré des gens ici qui étaient intéressés par l'idée. Et donc, ils m'ont suivi dans cette idée-là de parrainer. En fin de compte, c'est devenu ça, l'idée. Hein, on met ceux qui peuvent mettre 150 euros sur la table et qui ont envie que cet argent serve à ce que des enfants aillent à l'école. Voilà, donc j'en ai parlé et du coup on a créé l'association Un Parrain France Burkina Faso. Et voilà, on peut dire que du coup, bah, la chance que j'ai, c'est que ça me permet d'y retourner, de voyager, d'aller au Burkina Faso, d'être accueilli, d'être reçu, voilà, avec un objectif concret.
L'objet que je vois, bah, c'est un manche en bois avec une partie métallique et ça me fait un peu penser à un outil de travail pour l'agriculture.
Alors oui, c'est l'objet que j'ai choisi. J'avais plusieurs objets, mais j'ai choisi celui-là. C'est un outil de travail pour travailler dans les champs, puisque le Burkina Faso est un pays pauvre, mais essentiellement agricole, et l'agriculture sert essentiellement pour chaque famille pour se nourrir. C'est pas du tout, faut pas imaginer de l'agriculture extensive pour de l'exportation ou autre. C'est les familles sont très isolées les unes des autres dans le pays essentiellement et produisent des céréales, du mil, un petit peu de maïs pour se nourrir. Donc ils produisent une fois dans l'année pour se nourrir toute l'année et en plus faire leurs propres semences pour l'année suivante. Alors, c'est précaire. Ce sont des travaux. Alors, l'outil, vous dites, je ne connais plus le nom exact de cet outil. C'est un manche plutôt court avec une partie métallique qui sert à désherber, à faire des trous aussi dans la terre pour mettre les graines. Et c'est une position de travail qui est qui nous paraît très inconfortable parce que c'est courbé. Et c'est courbé toute la journée, donc les hommes, les femmes, beaucoup font ça. Il faut savoir que les enfants participent aux travaux des champs également. Ce sont des ânes qui sont utilisés pour travailler la terre, ce qu'on appelle pour charruer. Et ce sont les enfants, quand ils ne vont pas à l'école, qui travaillent pour aider la famille. Alors du coup, on va finir un petit peu avec sur l'idée que j'ai, moi, de la scolarisation d'enfants. C'est quand ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, en fait, un enfant qui va à l'école dans une famille, nous l'aidons jusqu'à ce qu'il obtienne le baccalauréat. Et quand il a son bac, c'est un élève, un enfant qui deviendra un adulte. Et quand c'est une femme, c'est encore mieux. Quand c'est une jeune fille, puisque si elle a été à l'école, elle saura éduquer ses enfants. Et donc c'est quelque chose qui va être transmis. Les connaissances, c'est des gens qui sauront compter, qui sauront parler français, qui sauront échanger avec l'administration de leur pays et qui aideront leur famille, puisque juste l'agriculture pour se nourrir, c'est vraiment un petit peu juste pour survivre, quoi. Et ben voilà.
J'ai juste une question, oui. C'est une fille ou un garçon que vous prenez, enfin les trois enfants?
Alors merci pour la question aussi, parce que du coup nous sommes arrivés à 67 élèves que nous avons inscrits cette année. Ce n'est pas juste un ou deux, il y a une vingtaine de parrains et de marraines aujourd'hui. Et il y a on a inscrit 65 élèves à cette rentrée-ci. Depuis 2010, il y en a 26 qui ont obtenu le bac, déjà, grâce à un parrain France Burkina Faso, donc grâce à des parrains et à des marraines ici sur place. Chaque année, on inscrit un petit peu plus d'élèves. Et il y a aussi un événement que l'on a mis sur... Enfin, c'est la farfouille, la grande farfouille, tous les ans à Plougonvelin. Là, c'est en 2019, ce sera le 12 mai. C'est un vide-grenier en plein air, avec concert, qui est dans l'Enclos des Moines, à la Pointe Saint-Mathieu, qui nous rapporte aussi de l'argent, justement, pour inscrire des élèves à l'école. Donc il n'y a pas que des parrains et des marraines, il y a aussi l'argent qu'on peut gagner sur place ici, qui permet à des élèves d'aller à l'école. Donc voilà, moi, à titre personnel, je suis aussi parrain de deux élèves. Voilà, donc moi j'ai deux garçons, mais il y a à peu près autant de filles que de garçons qui sont parrainés par le biais de l'association, quoi.
Est-ce que vous avez une anecdote de voyage ?
Ouh là là, une anecdote, je pense qu'on peut en avoir plein. Alors j'y suis retourné, déjà faut savoir que j'y suis retourné tous les deux ans, donc 2010-2011, ça c'était les deux premières années, après 2013, 2015, 2017, voilà j'y retourne tous les deux ans en gros, des anecdotes j'en ai plein. Allez, on va en prendre une sympa. La dernière fois, c'était en 2017. On voyageait donc de Léo, c'est dans le sud du pays, de Léo. On avait 100 km de route, de piste à faire. C'est pas de la route goudronnée, c'est vraiment de la piste. Et moi, je savais qu'on n'avait pas de route de secours. Et je me suis dit, voilà, ça c'est mon anecdote. Je me suis dit, mais si là on crève, ça va être une galère, mais pas possible. 100 km de brousse, donc c'est de la piste rouge. Et là, on voyage, on traverse le pays. Et c'est là où on se rend compte d'ailleurs que c'est pauvre, c'est isolé. Il y a des gens qui sont isolés les uns des autres. C'est très agricole. C'est la forêt. On a eu de la chance de pas avoir de pluie. Parce que on a une voiture de. C'est pas un 4x4 qu'on avait, c'était une voiture de ville, pas 4 roues motrices du tout. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais là, si on crève, mais qu'est-ce que c'est comme galère ? On n'a pas crevé. On a traversé donc les 100 km de piste, on est arrivé fatigué le soir. C'était à Tiébélé qu'on arrivait, parce qu'il y a quelque chose de sympa à visiter là-bas, à Tiébélé. On a passé la nuit, on a dormi dans des cases, et vous n'allez pas me croire, mais le lendemain matin, on avait une roue crevée. Donc ça s'est pas joué à grand chose, quoi. Et c'est pas quelqu'un du tout qui nous a crevé la roue, hein. C'était vraiment une roue qui s'était dégonflée suite à la piste.
Maria Jayana, what a boy of it! Majuku Jayana. Koyana, Wale Koyoke, Yenida Kayana, Wale Koyoke, Waso Kayana, Wale Koyoke, Aesa Bari Wari Koka.
Est-ce que vous avez une destination de rêve autre que le Burkina Faso ?
Oui, parce que faut pas oublier quand même que moi j'ai beau faire ça, cette association-là, je suis quelqu'un comme tout le monde, j'ai un métier, je travaille, et effectivement j'aime bien les vacances, j'aime les vacances aussi pour d'autres finalités. Tous les deux ans, j'y retournerai, c'est sûr, parce que c'est une chance d'avoir des vacances et de les mettre pour une cause comme celle-ci. Mais évidemment, j'adore les vacances, j'adore les chaises longues, j'adore la piscine, j'adore la plage, j'adore la montagne et destination de rêve, il y en a plein. Non, je dirais non, parce que j'ai la chance de pouvoir bouger. Quand j'ai envie d'aller quelque part, j'y vais. Et j'ai un véhicule qui nous permet de dormir dedans. On part sur un coup de tête, on peut aller en Croatie. On est parti en Croatie avec le multivan, d'île en île. Donc non, je trouve que destination de rêve, c'est pas compliqué d'en trouver plein. Et même des fois sans aller très loin, en week-end, destination de rêve, le Sud-Bretagne, c'est magnifique.
Quelle sera votre prochaine escale ?
Donc quelle sera ma prochaine escale ? Ou alors, est-ce que j'ai des envies d'ailleurs ? Non, je dirais non. Non, j'aime où nous sommes, à la pointe bretonne, là où on est. J'aime tout ici. J'aime le caractère des gens, j'aime la géographie, le climat. Non, je pense que là, je suis satisfait. Quand on parle de voyage, ça ne veut pas dire s'installer et se projeter pour vivre ailleurs. Non, j'aime la différence, j'aime la découverte. Non, je suis de quelque part, j'ai des racines et j'y tiens.
Est-ce que vous avez un port d'attache ?
C'est un petit peu la même chose, comme tu dis. Oui, mais c'est ici. Pour moi, c'est maintenant mon port d'attache, c'est Plougonvelin, au moins le Finistère.
Est-ce que vous avez un juron que vous aimez bien du Burkina Faso ?
Ah non, ça me vient pas à l'esprit. Non, je n'ai pas. Ça me vient pas à l'esprit comme ça. Des expressions, ils en ont plein. C'est extra parce que déjà il y a plusieurs langues là-bas, il y a plusieurs ethnies. Ils ont des expressions, des jurons ou autres, beaucoup dans le respect, dans le remerciement, dans la façon de dire bonjour. Quand on se rencontre chaque jour, ça va passer 2 minutes à dire et comment ça va, et la famille, et les enfants. Et à la maison et le travail, ça va. Voilà, ça c'est culturel. Le temps, chaque jour, la première fois qu'on se voit, chaque jour, ça prend. C'est un échange, c'est une attention. Non, un juron, non, par exemple, non, il doit y en avoir sûrement, mais là ça m'échappe.
Et un plat d'ailleurs, du Burkina Faso, du coup ?
Alors, ça peut être aussi sous forme d'anecdote, hein, mais le cochon, évidemment, le cochon, le poulet, ils mangent beaucoup de viande, les Burkinabés. Quand ils ont la possibilité de le faire, c'est la fête. Dans les rues, les cochons, le matin, il y a des fours. Dans les rues, il y a des fours en terre. Il y a des grands plats qui se mettent dans le four. Donc, il faut d'abord chauffer le four avec du bois. Ils appellent ça le porc au four. C'est le porc qui est mis dans le plat et hop, qui est enfourné et qui met toute la matinée à cuire. Le riz aussi, évidemment, le riz sauce, ça c'est le plus le repas du quotidien, le repas qui coûte beaucoup moins cher, hein, le repas du midi pour celui qui a quelques pièces dans sa poche et qui doit manger, ça va être du riz sauce. Mais voilà, donc sinon c'est le poulet bicyclette, c'est-à-dire que les poulets là-bas ils sont pas comme chez nous, hein, ils ont que les os. c'est-à-dire que c'est un poulet, nous on a vite fait de le manger entier le poulet parce qu'on est en train de ronger les os. Nous d'ailleurs on mange pas grand-chose dans le poulet, on mange vraiment que ce qui est les muscles. Eux ils vont manger le cartilage, ils vont manger même une partie des os, quoi, avec les dents, ça craque dans les dents. Non, nous on le fait pas. Voilà, donc au niveau des plats, alors il y a quand même aussi des sauces et des parfums qui nous sont très, très étranges et différents. Le sumbala, ça parlera peut-être à certains qui le connaissent, mais le sumbala, c'est un plat avec une sauce, mais qui est très odorante et qui nous met un peu mal à l'aise, cette odeur, parce que c'est très fort et ça nous évoque plutôt de mauvaises odeurs, nous, par exemple. Mais pour eux, non, c'est vraiment un plat local.
Bah, merci pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview. Et bah, bonne continuation pour votre association.
C'est gentil, merci beaucoup. Au plaisir, merci.